Eh bien, mon cher amour, pour récompenser aujourd'hui ta délicate complaisance, je vais livrer à tes ardeurs une jeune fille vierge et plus belle que l'amour.
Comment ? Avec Dolmancé, tu fais venir une femme chez toi ?
Il s'agit d'une éducation. C'est une petite fille que j'ai connue au couvent l'automne dernier, pendant que mon mari était au zoo. Là, nous ne pûmes rien, nous n'osâmes rien, trop Dieu était fixé sur nous. Mais nous nous promîmes de nous réunir dès que cela serait possible. Uniquement occupée de ce désir, j'ai pour y satisfaire fait connaissance avec sa famille. Son père est un libertin que j'ai captivé. Enfin, la belle vient, je l'attends, nous passerons 2 jours ensemble. 2 jours délicieux. La meilleure partie de ce temps, je l'emploie à éduquer cette jeune personne. Dolmancé et moi, nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné. Nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie. Nous lui inspirerons nos désirs, et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on démontre à mesure qu'on dissertera, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de Cythère, Dolmancé, à celle des roses de Sodome. J'aurai 2 plaisirs à la fois, celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans nos filets. Eh bien, chevalier, ce projet est-il digne de mon imagination ?
Il ne peut être conçu que par elle, il est divin, ma sœur, et je te promets d'y remplir à merveille le rôle charmant que tu m'y destines. Ah, friponne, comme tu vas jouir du plaisir d'éduquer cet enfant, quel délice pour toi de la corrompre, d'étouffer dans ce jeune cœur toutes les semences de vertu et de religion qui placèrent ses institutrices. En vérité, cela est trop roué pour moi.
Il est bien sûr que je n'épargnerai rien pour la pervertir, pour dégrader, pour culbuter en elle tous les faux principes de morale dont on aurait pu déjà l'étourdir. Je veux, en 2 leçons, la rendre aussi scélérate que moi, aussi impie, aussi débauchée. Préviens Dolmancé, mets-le au fait dès qu'il arrivera pour que le venin de ses immoralités, circulant dans ce jeune cœur avec celui que j'y lancerai, parvienne à déraciner dans peu d'instants toutes les semences de vertu qui pourraient y germer sans nous.
Il était impossible de mieux trouver l'homme qu'il te fallait. L'irreligion, l'impiété, l'inhumanité, le libertinage découlent des lèvres de Dolmancé, comme autrefois l'onction mystique de celle du célèbre archevêque de Cambrai. C'est le plus profond séducteur, l'homme le plus corrompu, le plus dangereux. Ah, ma chère amie, que ton élève réponde aux soins de l'instituteur, et je te la garantis bientôt perdue.
Cela ne sera sûrement pas long avec les dispositions que je lui connais.
Mais dis-moi, chère sœur, ne redoutes-tu rien des parents si cette petite fille venait à jaser quand elle retournera chez elle ?
Ne crains rien. J'ai séduit le père. Il est à moi. Faut-il enfin te l'avouer ? Je me suis livrée à lui pour qu'il fermât les yeux. Il ignore mes desseins, mais il n'osera jamais les approfondir. Je le tiens.
Tes moyens sont affreux.
Voilà comme il les faut pour qu'il soit sûr.
Et dis-moi, je te prie, quelle est cette jeune personne ?
On la nomme Eugénie. Elle est la fille d'un certain Mistival, l'un des plus riches traitants de la capitale, âgée d'environ 36 ans. La mère en a tout au plus 32, et la petite fille 15. Mistival est aussi libertin que sa femme est dévote. Pour Eugénie, ce serait en vain, mon ami, que j'essaierais de te la peindre. Elle est au-dessus de mes pinceaux. Qu'il te suffise d'être convaincu que ni toi ni moi n'avons certainement jamais rien vu d'aussi délicieux au monde.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode des yeux ont des oreilles. Aujourd'hui, pour vous, bande de voyeurs, oui à la radio ai-je besoin de rappeler le titre de l'émission, c'est Mathilde, enfin, après des mois de contenance et de réserve et de sagesse, qui nous a proposé un thème pour l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfance pervertie. I love little girls, they make me feel so good. Bon, ça commence très fort, et je promets de ne pas passer de choses plus affreuses en jingle pour cette émission, il y en a déjà assez dans les textes. Ces textes, justement, ils ont des auteurs, mais ils ont surtout des lecteurs, et vous avez déjà eu le plaisir sadique d'entendre Céline et Mathilde en début d'émission. Sadique oui, car il s'agissait d'un extrait de La philosophie dans le boudoir de ce cher marquis de Sade. Les filles, quelque chose à dire pour votre défense ?
Non, malheureusement, j'ai vraiment apprécié lire ce texte.
Ah, moi aussi, je suis
un peu
totalement
perverse, Céline.
D'accord. Et très bien. Et Agère, tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins. Bonjour, Agère. Une
Bonjour.
Réaction.
Non, ça me laisse pantoise.
D'accord. Bien, je sens que la discussion va être très piquante. Pour l'instant, Agère, tu vas prendre la relève avec l'extrait suivant. Les poètes de 7 ans de Rimbaud, pour continuer en beauté.
Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant des tics noirs, quelques traits semblaient prouver en lui d'âcre hypocrisie. Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés, voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait, là-haut, qui râlait sur la rampe, sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout, vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là, tranquille, et livrant ses narines. Quand, lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver, s'illunait, gisant au pied d'un mur, enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié! Ses enfants seuls étaient ses familiers. Qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puants la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard, qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun, folle, en robe d'Indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et, par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve, il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noirs, en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en 3 roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul, et couché sur des pièces de toile, écru et pressentant violemment la voile.
On a failli vous proposer un truc gentil dans cette émission avec Les Malheurs de Sophie, dédicace à ma maman. Mais Agère nous a confié qu'elle avait horreur du générique du dessin animé étant petite. Bon, on en reparlera dans la discussion. Dans la longue liste des textes où des enfants font des bêtises, on a entre autres sélectionné La potion magique de Georges Bouillon, un livre pour enfants de Roald Dahl, moins connu que Charlie et la chocolaterie, mais tout aussi drôle. Georges s'assit à la table de la cuisine. Il tremblait encore. Oh, comme il détestait grand-ma! Il haïssait vraiment cette horrible vieille sorcière. Et tout à coup, il eut terriblement envie de faire quelque chose. Une chose énorme. Une chose absolument terrifiante. Une chose abominable. Une véritable bombe. Il voulait chasser cette odeur de sorcellerie qui flottait autour de la mégère. Il n'avait que 8 ans, certes, mais c'était un courageux petit garçon. Il était prêt à défier la sorcière. « Je ne vais pas me laisser terroriser », se dit-il. Mais il était bel et bien terrorisé. C'est pourquoi il voulait se débarrasser d'elle sur le champ. Enfin, pas tout à fait. Il voulait la secouer un peu. Exactement, la secouer. Mais qu'inventer d'énorme, de terrifiant, d'explosif ? Il aurait bien mis un pétard sous son fauteuil, mais il n'avait pas de pétard. Il aurait bien aimé lui glisser un long serpent vert dans le cou, mais il n'y avait pas de long serpent vert. Il aurait bien aimé lâcher six gros rats noirs dans la pièce où elle se trouvait, mais il n'avait pas six gros rats noirs. Georges réfléchissait à ce passionnant problème lorsque son regard tomba sur la potion brunâtre de grand-ma posée sur le buffet. Encore un sale truc, on glissait dans la bouche de grand-ma une cuillerée de ce médicament quatre fois par jour, mais il ne lui faisait aucun bien, il restait toujours aussi épouvantable. En principe, un médicament doit améliorer la santé des gens, s'il n'y réussit pas, il ne sert à rien. Oh, oh, pensa soudain Georges. Ha ha, et je sais exactement ce que je vais faire. Je vais lui préparer une nouvelle potion. Une potion si forte, si violente et si fantastique qu'elle la guérira complètement ou lui fera sauter la cervelle. Je fabriquerai une potion magique, un médicament qu'aucun médecin n'a inventé jusqu'à présent. Georges regarda l'horloge de la cuisine. Il était 10h05. Il avait presque une heure devant lui puisque grand-ma devait prendre son médicament à 11h. « Allons-y !» s'écria Georges en se levant d'un bond. « Vive la potion magique ! Une puce, un pou, une punaise des bois, deux gros escargots et trois lézards gras, un serpent de mer tortillant, gluant, du jujubier, le jus de fruit, la poudre d'os d'un marsupilami, et puis mille et un autres produits, sentez-vous ? Vraiment répugnant. Je remue, fais bouillir longtemps. Belle mixture en vérité. C'est prêt, bouchez-vous le nez. »
Dans un petit plat à papier qui ressemble au lézard,
et un peu de sucre en poudre.
À l'instant, sur Transistor, la reprise par Chinese Man de la fameuse chanson du pudding à l'arsenic du dessin animé Astérix chez Cléopâtre. Avouez que c'était votre chanson préférée à l'époque, enfant sadique que vous étiez. Non, 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 ne niez pas. L'hypocrisie, c'est plutôt du côté de Rousseau qu'il faudrait la chercher. Eh oui, désolé Jean-Jacques de te casser encore du sucre sur le dos, mais bon, il faut avouer que quand on lit tes confessions, on comprend beaucoup mieux pourquoi tu as voulu soulager tes consciences en écrivant un traité sur l'éducation. Mathilde, l'épreuve accablante.
Il est bien difficile que la dissolution d'un ménage n'entraîne un peu de confusion dans la maison, et qu'il ne s'égare bien des choses. Cependant, telle était la fidélité des domestiques et la vigilance de monsieur et madame Lorenzi, que rien ne se trouva de manque sur l'inventaire. La seule mademoiselle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose et argent déjà vieux. Beaucoup d'autres meilleures choses étaient à ma portée. Ce ruban seul me tenta, je le volai, et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et enfin je dis en rougissant que c'est Marion qui me l'a donné. Marion était une jeune moriennoise dont madame de Vercellis avait fait sa cuisinière quand, cessant de donner à manger, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de bon bouillon que de ragoût fin. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. D'ailleurs, bonne fille, sage et d'une fidélité à toute épreuve. C'est ce qui surprit quand je la nommai. L'on avait guère moins de confiance en moi qu'en elle, et l'on jugea qu'il importait de vérifier lequel était le fripon des deux. On la fit venir, l'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban. Je la charge effrontément. Elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons, et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance, mais sans emportement, m'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui ne m'a jamais fait de mal. Et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma déclaration et lui soutiens en face qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer et ne me dit que ces mots. « Ah, Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. Voilà tout. » Elle continua de se défendre avec autant de simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de supposer, d'un côté une audace aussi diabolique, et de l'autre une aussi angélique douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour moi. Dans le tracas où l'on était, on ne se donna pas le temps d'approfondir la chose, et le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été vaine, elle ne cesse pas un seul jour de s'accomplir. J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie, mais il n'y a pas d'apparence qu'elle ait après cela trouvé facilement à se bien placer. Elle emportait une imputation cruelle à son honneur de toute manière. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin c'était un vol, et qui pisait employé à séduire un jeune garçon. Enfin, le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de vie s'était réunie. Je ne regarde pas même la misère et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposée. Qui sait à son âge où le découragement de l'innocence avilie a pu la porter ? Et si le remords d'avoir pu la rendre malheureuse est insupportable, qu'on juge de celui d'avoir pu la rendre pire que moi.
J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là.
Pardonnez-moi, je suis absolument désolé de vous infliger cette musique si niaise et si entêtante, mais je devais profiter de l'occasion. Elle ne se représentera pas de sitôt. C'était malheureusement Sabine Paturel et les bêtises, ah là là, les folles années 80. Pour vous vider les yeux et les oreilles, je vous propose maintenant la douce voix de Céline, en plus en VO, qui va vous lire du Dickens avec l'histoire d'Oliver Twist. Dans cet extrait, Oliver demande au cuisinier plus de nourriture pour lui et ses compagnons affamés.
Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow starvation for 3 months. At last, they got so voracious and wild with hunger that one boy, who was tall for his age and hadn't been used to that sort of thing, for his father had kept a small cookshop, hinted darkly to his companions that unless he had another basin of gruel per diem, he was afraid he might some night happen to eat the boy who slept next to him, who happened to be a weakly youth of tender age. He had a wild, hungry eye, and they implicitly believed him. A council was held. Lots were cast who should walk up to the master after supper that evening and ask for more, and it fell to Oliver Twist. The evening arrived. The boys took their places. The master, in his cook's uniform, stationed himself at the copper. His pauper assistants ranged themselves behind him. The gruel was served out, and a long grace was said over the short commons. The gruel disappeared, the boys whispered each other, and winked at Oliver, while his next neighbours nudged him. Child as he was desperate with hunger, and reckless with misery. He rose from the table, and advancing to the master, basin and spoon in hand, said, somewhat alarmed at his own temerity, "Please, sir, I want some more." The master was a fat, healthy man, but he turned very pale. He gazed in stupefied astonishment on the small rebel for some seconds, and then clung for support to the copper. The assistants were paralyzed with wonder, the boys with fear. "What?" said the master at length, in a faint voice. "Please, sir," replied Oliver, "I want some more." The master aimed a blow at Oliver's head with the ladle, pinioned him in his arm, and shrieked aloud for the beadle. The board was sitting in solemn conclave when Mr. Bumble rushed into the room in great excitement, and addressing the gentleman in the high chair, said, "Mr. Limpkins, I beg your pardon, sir. Oliver Twist has asked for more." There was a general start. Horror was depicted on every countenance. "For more?" said Mr. Limpkins. "Compose yourself, Bumble, and answer me distinctly. Do I understand that he asked for more after he had eaten the supper allotted by the dietary?" "Indeed, sir," replied Bumble. "That boy will be hung," said the gentleman in the white waistcoat. "I know that boy will be hung." nobody controverted the prophetic gentleman's opinion. An animated discussion took place. Oliver was ordered into instant confinement, and the bill was next morning pasted on the outside of the gate, offering a reward of £5 to anybody who would take Oliver Twist off the hands of the parish. In other words, £5 and Oliver Twist were offered to any man or woman who wanted an apprentice to any trade, business or calling. I never was more convinced of anything in my life, said the gentleman in the white waistcoat as he knocked at the gate and read the bill next morning. I never was more convinced of anything in my life than I am that that boy will come to be hung.
Bon, c'est un peu triste, je l'admets. Mais on va faire une petite pause avec une virgule signée Tenacious D. Si vous connaissez Jack Black, sachez que c'est lui qui chante. L'enfance rebelle, oui, mais drôle, avec Kickapoo. Et juste après, ça sera Hagère qui vous replongera dans la tristesse la plus noire avec des poupées blanches. His name was Young JP and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone.
Cela avait commencé avec Noël et les poupées qu'on recevait en cadeau. Le gros cadeau spécial et tendre était toujours une grande poupée aux yeux bleus. D'après les rires bêtes des adultes, je savais que cette poupée représentait ce qu'ils pensaient que je désirais le plus. J'ai été stupéfaite par l'objet lui-même et ce à quoi il ressemblait. Qu'est-ce que j'étais censée faire avec elle ? Jouer à être sa mère ? Les bébés et le concept de maternité ne m'intéressaient pas. Je ne m'intéressais qu'aux êtres humains de mon âge et de ma taille, et je ne pouvais manifester aucun enthousiasme à la perspective d'être mère. La maternité, c'était la vieillesse et d'autres possibilités lointaines. Cependant, j'ai vite appris ce qu'on attendait que je fasse avec la poupée. Je devais la bercer, inventer des situations autour d'elle, et même dormir avec elle. Les livres d'images étaient remplis de petites filles qui dormaient avec leurs poupées. En général, des poupées en lambeaux, mais pour moi il n'en était pas question. J'étais physiquement révoltée et secrètement effrayée par ses yeux ronds et crétins, par cette face de mardi gras et ses cheveux qui ressemblaient à des vers de terre orange. Les autres poupées qui étaient censées me donner beaucoup de plaisir atteignaient l'effet exactement inverse. Quand je les prenais dans mon lit, les jambes raides et dures s'enfonçaient dans ma peau, les doigts boudinés m'écorchaient. Si je me tournais en dormant, je me cognais dans la tête froide comme de l'os. C'était une compagne des plus inconfortables et tout à fait agressive pour dormir. La tenir dans mes bras ne m'apportait pas plus de plaisir. La gaze ou la dentelle amidonnée de la robe en coton rendait irritante toute étreinte. Je n'avais qu'une envie, lui arracher les membres. Pour voir de quoi elle était faite, pour en découvrir la tendresse, pour trouver la beauté, l'aspect désirable qui m'avait échappé, et apparemment à moi seule. Les adultes, les filles plus âgées, les boutiques, les magasins, les journaux, les vitrines, le monde entier était d'accord pour reconnaître qu'une poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et à la peau rose était ce que toute petite fille adorait. « Regarde, disait-il, c'est beau, et si tu le mérites, tu l'auras peut-être. » Je palpais le visage en m'étonnant des sourcils faits d'un seul coup de pinceau. Je tirais sur les dents nacrées coincées comme deux touches de piano entre les lèvres arquées et rouges. Je suivais le nez retroussé, je crevais les globes oculaires bleus et vitreux, et je tordais les cheveux blonds. Je n'arrivais pas à l'aimer, mais je l'examinais pour comprendre pourquoi tout le monde la disait adorable. Si je cassais les doigts minuscules, si je tordais les pieds plats, si j'arrachais les cheveux, si je faisais tourner la tête, la chose émettait un bruit. Il disait que ce cri tendre et plaintif était « maman », mais pour moi ça ressemblait au bêlement d'un agneau en train de mourir, ou plus exactement à la porte de notre glacière tournant sur ses gonds rouillés en juillet. Si j'arrachais les yeux froids et stupides, elle beulait encore. Ah ! Si j'enlevais la tête, si j'en faisais tomber la sciure, si j'écrasais le dos contre le pied de lit en cuivre, elle beulait. Le dos de la robe en gaz se déchirait et je voyais le disque avec 6 trous, le secret du bruit, un simple rond en métal. Je cassais les poupées blanches. Mais l'écartèlement des poupées n'a pas été la véritable horreur. La chose vraiment horrible a été le transfert des mêmes impulsions sur les petites filles blanches. L'indifférence avec laquelle j'aurais pu leur donner des coups de hache n'avait d'égal que mon désir de le faire. Découvrir ce qui m'échappait, le secret de la magie qu'elle tissait sur les autres. Qu'est-ce qui faisait que les gens les regardaient en disant « Ah !» et jamais en me regardant. L'œil en coin des femmes noires quand elles les croisaient dans la rue et la douceur possessive de leur contact quand elle les touchait. Si je les pinçais, leurs yeux, contrairement à l'éclat stupide des yeux des poupées, se fermaient de douleur et leur cri n'était pas le grincement de la porte de la glacière, mais un fascinant hurlement de douleur. Quand j'ai appris à quel point cette violence désintéressée était repoussante, parce que désintéressée, ma honte cherchait un refuge. La meilleure cachette était l'amour, d'où la conversion du sadisme primitif en haine fabriquée et en amour hypocrite. C'était un petit pas vers Shirley Temple. J'ai appris beaucoup plus tard à l'adorer, tout comme j'ai appris à faire mes délices de la propreté en sachant, au moment même où je l'apprenais, que le changement était une adaptation, mais pas une amélioration.
Merci Agère. Alors on va s'arrêter là pour les choses tristes et affreuses. Je vous propose de retrouver votre adolescence joyeuse et vos souvenirs avec Mathilde, qui va nous lire un extrait de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, que vous allez, je pense, reconnaître.
Jeudi soir eut une réaction des plus surprenantes. Il sauta de son lit et recula le plus loin possible de Dumbledore, l'air furieux. « N'essayez pas de me raconter des histoires. L'asile, c'est de là que vous venez, n'est-ce pas ? Professeur, oui, bien sûr, eh bien je n'irai pas compris. C'est cette vieille pie qui devrait y aller à l'asile. Je n'ai jamais rien fait à la petite Amy Benson ou à Denise Bishop. Vous pouvez le leur demander, ils vous le confirmeront. » « Je ne viens pas de l'asile, » dit Dumbledore avec patience. « Je suis un enseignant, et si tu veux bien t'asseoir calmement, je te parlerai de Poudlard. Mais bien sûr, si tu préfères ne pas y aller, personne ne t'y forcera. »« Ils n'ont qu'à essayer de m'y envoyer, ils verront bien !» lança Jeudi Sort d'un ton railleur. « Poudlard, » continua Dumbledore, comme s'il n'avait pas entendu, « est une école réservée à des élèves qui ont des dispositions particulières. Je ne suis pas fou !»« Je sais bien que tu n'es pas fou. Poudlard n'est pas une école pour les fous, c'est une école de magie. » Il y eut un silence. Jeudi Sort s'était figé, le visage sans expression, mais son regard se fixait alternativement sur chacun des yeux de Dumbledore, comme s'il essayait de déceler le mensonge dans l'un d'eux. « De magie ? » répéta-t-il dans un murmure. « Exactement, » dit Dumbledore. « C'est de la magie ce que j'arrive à faire ? Qu'est-ce que tu arrives à faire ?»« Toutes sortes de choses, » répondit Jeudi Sort dans un souffle. Sous le coup de l'excitation, une rougeur fébrile monta de son cou vers ses joues creuses. Il paraissait fébrile. « J'arrive à déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que j'aie besoin de les dresser. Je peux attirer des ennuis aux gens qui me déplaisent, leur faire du mal si j'ai envie. » Ses jambes tremblaient. Il s'avança d'un pas vacillant et se rassit sur le lit, regardant ses mains, la tête baissée, comme s'il priait. « Je savais que j'étais différent des autres, » murmura-t-il, les yeux fixés sur ses doigts frémissants. Je savais que j'étais exceptionnelle. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en moi. « Eh bien, tu avais raison, » dit Dumbledore, qui ne souriait plus, mais observait intensément Jeudi Sort. « Tu es un sorcier. » Jeudi Sort releva la tête. Son visage était transfiguré. On y lisait un bonheur effréné qui n'ajoutait rien à sa beauté pour autant. Au contraire, ses traits, finement dessinés, semblaient à présent plus grossiers, son expression presque bestiale.
Alors avant même de pouvoir commencer la discussion, Clément s'est introduit comme ça dans l'émission pour nous souffler que c'était vraiment intéressant, la physiognomonie dans Harry Potter. Alors, est-ce qu'il y a une réaction autour de la table ?
Oui, évidemment. Maintenant, on va relire ce passage avec tout ce qu'on sait de Jeudi Sort et de ce qu'il deviendra après. Bien sûr, on a l'auteur qui fait une description avec des effets qui vont annoncer avant-coureur vraiment de ce qu'il va devenir. On peut trouver ces descriptions plutôt appuyées avec notamment les traits, le trait bestial, etc.
Ah oui, parce que bestial, est-ce que ça fait référence au fait que sa transformation de son visage en visage de serpent qui va avoir lieu par la suite?
Et surtout, on est aussi dans l'univers un peu presque du conte. On sait que c'est très appuyé, ouais. Le conte, très manichéen aussi, et qu'on a besoin... d'avoir les bons et les méchants clairement distingués, et la physiognomonie, même si on ne l'appelle pas comme ça pour les contes, bien sûr, est un des moyens de faire ça. Donc c'est aussi une manière, tout simplement, pour J.K. Rowling, de bien souligner ses effets. Mais je pense que ça marche, mais qu'on remarque.
Justement, ouais. Un texte qu'on aurait pu utiliser pour cette émission, c'est le bouquin suivant de J.K. Rowling, Une place à prendre, j'ai oublié le nom en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment, ça contraste tout à fait avec Harry Potter. C'est vraiment un bouquin sale et très avec beaucoup de perversion de tous les personnages sans exception, qui sont pas du tout manichéens, mais au contraire tous pourris à l'intérieur. Et il y a à nouveau ce thème de la perversion de l'enfance au travers des personnages adolescents du livre, mais aussi le fait que c'est notre auteur d'Harry Potter de l'enfance qui décide de se montrer sous un jour complètement différent pour se détacher de cette image d'auteur d'Harry Potter, en fait.
Juste pour revenir sur ce que Céline disait sur la beauté, sur le physique, disons, des enfants, même si c'est bizarre un peu de dire ça. En fait, je trouve que Toni Morrison, dans le texte que j'ai lu, elle explore la question de la beauté de manière un peu plus subtile, c'est-à-dire que pour elle, ça n'indique rien. C'est juste qu'elle, justement, la perversion, ça ne s'affiche pas sur des traits, mais c'est quelque chose qu'on t'inculque en forçant ou en inculquant des modèles de beauté, disons. Par exemple, là, on voit une petite fille noire qui n'a pour modèle de beauté qu'une poupée blanche avec les yeux bleus qu'elle n'a pas. Et dans le roman, il y a un autre personnage qui devient fou à cause de ça, justement, parce qu'elle est tellement obnubilée par ce modèle de beauté-là que à la fin, enfin, elle perd la vue, elle devient folle, voilà. J'ai un peu spoilé le roman, désolé.
Oui, bon, on avait compris la teneur, de toute façon, du roman juste un extrait.
Bah, moi, je pense que, justement, le passage que tu as lu, Agir, c'est sans doute le plus fort, je pense, au niveau de cette perversion. Parce que tous ceux qu'on a lus, donc, Roald Dahl, J.K. Rowling, on est encore un peu dans cet univers de contes, donc c'est assez amusant aussi. Bon, un peu moins, peut-être, Harry Potter, bien sûr.
Le trait un peu forcé, aussi.
Oui, voilà, le trait forcé. Après, on a lu des textes qui sont très esthétisants, comme, Sad, bien sûr, c'est très... Enfin, c'est choquant, bien sûr, mais on a la barrière de nous.
Aussi, on a aussi le point de vue des adultes sur l'enfant qui va être perverti.
Exactement.
On prend pas ce point de vue-là, en fait.
Exactement. Et le fait de se placer à l'intérieur d'un point de vue d'un enfant, et c'est très très bien rendu, enfin, par l'écriture de Toni Morrison, comme ça, et de pénétrer dans cette conscience et d'avoir tout cette haine, vraiment. Elle parle de haine, puis qu'elle va convertir en amour. Enfin, c'est extrêmement choquant pour nous. Se dire que, bien sûr, on peut parler des enfants pervertis par les adultes, mais alors des enfants qui sont pervertis à la manière de jeu du sort, sauf qu'on pénètre pas dans sa conscience, donc c'est peut-être pas aussi fort. Là, c'est vraiment très très bien fait.
On s'attarde pas trop, je trouve, en tout cas dans le roman, et je sais pas si c'est vraiment tangible dans l'extrait, mais on s'attarde pas trop sur le caractère pervers de l'enfant, mais plus comment est-ce que... par des phénomènes de socialisation, etc., on en vient à faire des enfants complètement pervers.
Oui, c'est vraiment, je pense, une notion qui réunit pas mal des textes qu'on a lus, parce qu'on n'a pas aussi parlé d'Oliver Twist, qu'on peut mettre en lien aussi avec l'enfance de Jeux du Sort, parce que finalement, on sait pourquoi Jeux du Sort, il est perverti.
Et finalement, on ne sait pas dans quelle mesure Jeux du Sort est intrinsèquement mauvais.
Oui, surtout vécu en orphelinat, il a été abandonné par sa mère, voilà.
Mais je tiens à ajouter que Oliver Twist ne devient jamais totalement pervers et qu'il garde... Ah oui, non, c'est mon grand héros, Oliver Twist. c'est pour ça que c'est un livre à mettre dans toutes les mains, c'est que malgré toutes ses épreuves, malgré les gens qui le battent, qui l'affament, qui malgré le fait qu'il soit trimballé de ville en ville, malgré qu'il soit volé par une bande de voleurs, puis rendu à la police, puis etc., intrinsèquement, il reste gentil. Et c'est sans doute aussi pour ça que c'est un livre formidable et plein d'optimisme à la fin. Pas de spoiler, bien sûr, mais c'est aussi, ça vient de Dickens, ça vient de cette structure de conte, bien sûr.
Oui, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, moi, Oliver Twist. Vraiment, ça m'a hanté pendant des années. Fin...
Bon, alors voilà, la discussion est finie, on a dit beaucoup de choses. Ça conclut notre émission sur l'enfance pervertie. Et
ce rire de Père Noël,
on vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous propose de fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs écouter L'écume des pages, la nouvelle émission de Transistor qui vous ravira, vous bibliophiles, et qui couvre cette semaine la fête du livre de Bron. Avant de vous quitter, je ne résiste pas, de façon, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de relever les liaisons ratées dans les paroles des gens, et donc je vous propose de reparler un peu de libertinage avec les liaisons dangereuses. Vous avez toujours trouvé l'idylle entre Danceny et Cécile de Volanges un peu plate, j'y ai rajouté quelques liaisons. Lettre 28 du chevalier Danceny à Cécile Volanges. Eh, quoi, mademoiselle, vous refusez toujours de me répondre ? Rien ne peut vous fléchir, et chaque jour emporte avec lui l'espoir qu'il avait amené. Quelle est donc cette amitié que vous consentez qui subsiste entre nous, si elle n'est pas même assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine ? Si elle vous laisse froides et tranquilles, tandis que j'éprouve tous les tourments d'un feu que je ne puis éteindre ? Si loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit pas même pour faire naître votre pitié. Quoi ? Votre ami souffre et vous ne faites rien pour le secourir. Il ne vous demande qu'un mot et vous le lui refusez. Vous voulez qu'il se contente d'un sentiment si faible dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances. Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier. Ah, croyez-moi, mademoiselle, vouloir payer de l'amour avec de l'amitié, ce n'est pas craindre l'ingratitude, c'est redouter seulement d'en avoir l'air. Cependant, je n'ose plus vous entretenir d'un sentiment qui ne peut que vous être à charge s'il ne vous intéresse pas. Il faut au moins le refermer dans moi-même, en attendant que j'apprenne à le vaincre. Je sens combien ce travail sera pénible. Je ne me dissimule pas que j'aurai besoin de toutes mes forces. Je tenterai tous les moyens. Il en est un qui coûtera le plus à mon cœur. Ce sera celui de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J'essaierai même de vous voir moins, et déjà, je m'occupe d'en trouver un prétexte plausible. Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd'hui. Vous seule étiez faite pour mon cœur. Avec quel plaisir je ferais le serment de ne vivre que pour vous, mais vous ne voulez pas le recevoir. Votre silence m'apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi. Il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence et la manière la plus cruelle de me l'annoncer. Adieu, mademoiselle. Je n'ose plus me flatter d'une réponse. L'amour l'eût écrite avec empressement, l'amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance, mais la pitié, l'amitié et l'amour sont également étrangers à votre cœur.